densité désertique dont la houle enserre la vallée du Nil de son monde immuable et sans vie, les Égyptiens l'ont choisi dès les premières dynasties à l'aube de l'histoire pour y établir leur monument d'éternité, les tombes des pharaons de Haute et Basse Égypte. Tout le désert d'Occident est peuplé de nécropoles vieilles de 4 à 5 000 ans. À l'horizon, les pyramides forment une chaîne ininterrompue de Gizeh à Meïdoum, en passant par Abou Zir, Saqqara et Dachour.
Combien de pyramides sont visibles sur ce site de Dachour ?
Alors vous en avez deux très grandes et puis trois plus petites. Alors trois, je veux dire deux surtout que les gens arrivent à voir, la troisième est difficilement visible. Et il y en a d'autres encore en fait, mais pour celles-là il faut savoir où elles sont. Et certaines ont même disparu depuis qu'elles avaient été observées pour la première fois.
Mais elles sont de tailles différentes.
Ouais, vraiment. Alors on a vraiment une différence majeure entre des monuments qui font pour certains plus de 100 mètres de haut et d'autres où c'est des tas de pierres et de briques actuellement qui font pour certains les plus grands encore une trentaine de mètres de hauteur, mais d'autres où il faut beaucoup d'imagination.
On va peut-être rappeler la fonction d'une pyramide.
Alors la pyramide à la base c'est vraiment la tombe d'un roi. C'est comme ça que ça a été conçu. Au bout d'un moment, ça va devenir aussi des tombes pour des reines. On va dire la fonction primordiale. Après, il y a d'autres pyramides en Égypte. Il y a des pyramides satellites qui sont à côté des grandes pyramides dans lesquelles il y avait la dernière demeure d'un souverain, pour lesquelles on a un certain nombre de doutes, d'hypothèses sur la fonction en tout cas de ces monuments, mais qui n'étaient pas censés abriter un corps, mais qui avaient une fonction religieuse. Et puis, on a aussi parfois... Alors c'est plutôt rare, mais ça date de l'époque d'un des rois qui va nous occuper justement à Dachour, des pyramides provinciales qui sont établies à un certain moment justement de l'ancien empire et qui sont en relation avec, semble-t-il, des centres administratifs importants que le roi contrôlait. Et cette petite pyramide, bien plus petite en tout cas que celle par exemple de Giza, permettait peut-être d'affirmer le pouvoir royal à travers le pays.
On a construit des pyramides en Égypte pendant combien d'années ?
Alors on a construit des pyramides pendant longtemps, entre la première qui est la pyramide à degré de Djoser à Saqqara, où on est aux alentours de 2650-2700 avant Jésus-Christ. La dernière pyramide royale pour un roi, vraiment, elle date du tout début de la 18e dynastie, au début du Nouvel Empire. C'est la pyramide d'Amosis qui a été construite à Abydos. Et puis ensuite on va encore utiliser la pyramide, mais beaucoup plus petite pour des particuliers. Donc on peut vraiment dire que la dernière pyramide royale égyptienne, elle date du début de la 18e dynastie. Donc on va dire entre la première de Djoser et celle d'Amosis, on a 1100 ans à peu près. Et puis, c'est pas fini, les pyramides vont être réutilisées encore pour des rois, mais au Soudan, dès la 25e dynastie. Et là, vous avez tout un ensemble de sites entre le nord de Khartoum, on va dire, vers Meroé, et puis un peu plus au nord encore, vers Djebel Barkal, vous avez deux grandes nécropoles qui vont abriter des pyramides pendant plusieurs siècles encore. Même les dernières qui sont à Meroé, les toutes dernières construites, sont probablement du 4e siècle de notre ère.
Revenons à Dachour. C'est un site qui est quand même moins fréquenté que les autres sites égyptiens.
Oui, beaucoup moins de touristes là-bas, pour plusieurs raisons. Déjà, la plupart des personnes lorsqu'ils visitent le Caire vont plutôt déjà à Giza. On va dire les un peu plus intéressés parmi ces gens-là vont à Saqqara. Et puis Saqqara, ça prend beaucoup de temps. C'est un immense site, on pourrait en fait y passer plusieurs journées. Donc souvent, quand ils ont déjà fait la journée à Saqqara, c'est trop tard pour aller à Dachour. Les sites aussi en Égypte ferment, on va dire, au plus tard pendant l'été à 17h. Donc ça fait des journées quand même limitées. Et donc Dachour reçoit beaucoup moins de visiteurs. Alors pour nous, c'est pas pour nous déplaire, ça lui laisse un côté un peu plus sauvage. On est un peu moins pris d'assaut d'une certaine manière. On n'a pas besoin aussi de devoir repousser trop fréquemment des touristes qui viendraient se promener autour du chantier, parce qu'ils n'ont pas le droit en fait quand on est en pleine fouille. Ça lui donne un côté un peu plus intact d'une certaine manière.
Il y a aussi le fait que ce site, il n'est ouvert que depuis les années 90.
Oui, en 1996, il a été ouvert aux touristes. Et on peut y visiter actuellement, en tout cas, deux des pyramides. Mais même l'une d'entre elles n'a été ouverte que très récemment, en 2018, si mon souvenir est bon. Donc c'est beaucoup plus limité. Vous ne pouvez pas vous promener dans toutes les zones du site archéologique. Et beaucoup des tombeaux, certaines des pyramides aussi, sont tout simplement inaccessibles.
Et ça a été longtemps une zone militaire. Ça explique peut-être cela.
C'est toujours une zone militaire, en fait. C'est probablement la plus grande caserne d'Égypte. Et donc, c'est pour ça que c'était un site très sensible. En fait, dès les années 50, on va dire à peu près au milieu des années 50, le site a été modifié, justement. Enfin, la caserne est un peu au nord-ouest du site lui-même. Mais donc, l'accès a été interdit aux archéologues et donc aux visiteurs, aux touristes aussi, de manière générale. Et ça n'a été rouvert donc très tardivement. Et pour les archéologues en eux-mêmes, il a fallu attendre 1975 aussi pour que des permis puissent de nouveau être accordés dans cette zone-là.
Sa forme étrange attire le regard. C'est la première pyramide à face lisse de l'histoire. Et la seule qui présente une double pente.
Extrait du documentaire Snéfron, à l'aube des pyramides.
Voir à Dachour la pyramide rhomboïdale, comment est-elle ?
Alors c'est une pyramide très particulière, c'est ma pyramide préférée.
Audrey Heller, maître assistante à l'université de Genève.
Elle est rhomboïdale, pourquoi ? Enfin, c'est un surnom qui lui a été donné, puisqu'elle était censée être à face lisse, et puis il y a eu un petit problème de construction au milieu des travaux, on va dire. On a commencé avec une pyramide, qui d'ailleurs même à l'origine devait être encore plus raide, avec un angle de 60 degrés, elle aurait dû faire 150 mètres de haut, donc être plus grande que celle de Giza, de Khéops. Et puis les Égyptiens ont déjà rectifié en partie cet angle pendant la construction, ils ont fait un angle à 54 degrés, puis dessus un autre angle à 43 degrés. Donc elle a un angle, si on veut, très particulier, qui lui donne cette apparence que n'ont pas les autres pyramides. Surtout, ce qui est particulier, c'est qu'elle a conservé une grande partie de son parement en calcaire. Et ça, c'est intéressant parce que la plupart des autres pyramides, enfin toutes les pyramides, on va dire, ont perdu ce parement qui a été réutilisé parfois même déjà dès l'Antiquité, mais aussi pendant la période médiévale. Les pyramides de Gizeh, c'est particulièrement flagrant pour les auditeurs qui nous écoutent, par exemple. Ils ne verront que le petit chapeau d'une des pyramides, celle de Khéphren, qui a conservé ce parement de calcaire blanc, mais le reste est dénudé. Alors maintenant, on connaît ces pyramides sous cette forme-là, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc cette pyramide rhomboïdale, elle a cet angle. Pourquoi il y a eu cet angle ? En fait, il y a une instabilité du terrain à cette zone-là. Les Égyptiens avaient choisi cet endroit du plateau, surélevé, qui permettait aussi d'avoir une vision encore plus majestueuse du monument une fois qu'il serait achevé. Donc on a vraiment l'impression qu'il est encore plus grand qu'il ne l'était en réalité. Même s'il est très haut, puisque la pyramide à la fin était terminée à 105 mètres de hauteur. Mais ils avaient mal calculé la chose, c'est qu'il y a une couche de calcaire sur laquelle ils se sont mis. Ah, ils se sont dit c'est très bien, mais en dessous, en fait, vous avez une couche argileuse, sablonneuse. Et lorsque vous avez commencé à empiler des tonnes de blocs, eh bien, le sol a commencé à bouger. Et donc, il y a eu certainement des sortes de fissures qui sont apparues pendant la construction et qui ont forcé les Égyptiens justement à rectifier cet angle de construction, à l'aplanir un peu plus au-dessus pour être sûr que tout ne s'effondre pas et surtout, notamment, les chambres funéraires à l'intérieur du bâtiment, il fallait qu'elles survivent parce que bon, le roi, on ne voulait pas qu'il finisse écrasé comme une crêpe, donc il fallait s'assurer que le monument allait tenir le coup. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier qui lui donne un profil
elle
complètement
est originale.
Unique. Ah oui, elle est complètement originale.
Il arriva que la majesté du roi Ouni mourut et que la majesté du roi Snéfrou se leva comme un roi bienfaisant dans la terre entière.
Elle a été souhaitée par Snéfrou, cette pyramide.
Oui, c'est lui qui va la faire construire. Alors, il a fallu un certain temps d'ailleurs pour comprendre que c'était lui. C'est-à-dire que c'est dans les années seulement 1945-46 que des archéologues ont trouvé enfin le nom du roi dans cette pyramide, sur certains blocs, des graffitis notamment aussi, qui permettaient d'être sûr que c'était cette pyramide-là qui avait été construite par ce roi. Parce que jusque-là, on ignorait qui l'avait construite.
Snéfrou, c'est le fondateur de la 4e dynastie, c'est juste ?
Oui, alors Snéfrou, c'est le premier roi de la 4e dynastie, donc on est pendant l'ancien empire égyptien, il règne aux alentours de 2600 avant Jésus-Christ. C'est un roi assez particulier puisqu'il a laissé une forte empreinte dans l'histoire égyptienne. On le considère dans la littérature classique, notamment du Moyen-Empire, comme un bon roi, un roi qui a été très prospère aussi. Et puis c'est un roi qui a fait beaucoup de choses, semble-t-il, à son époque, par rapport aux sources, aux rares sources que l'on a d'ailleurs sur cette période très lointaine. Il a modifié, on va dire, semble-t-il, l'appareil administratif de l'État. Il va fonder aussi des domaines agricoles à travers le pays. Ces domaines agricoles vont lui permettre de s'enrichir d'une certaine manière, mais vont surtout permettre de soutenir la construction de ces monuments que sont les pyramides. Donc c'est très malin, il fallait alimenter tout ça. Alors il fallait alimenter en main-d'œuvre ces domaines agricoles, et là il va faire des razzias dans des tribus libyennes et nubiennes aussi. Il va ramener, semble-t-il, des milliers de personnes pour travailler dans ces champs, pas sur les pyramides, ça ce sera autre chose, et va permettre de soutenir l'économie, on va dire, à ce moment-là, pour pouvoir construire ces monuments. C'est aussi un roi qui est connu pour avoir organisé des expéditions, notamment du côté de Byblos, donc au Liban, pour aller chercher du cèdre, et on va en retrouver dans ces pyramides, notamment la pyramide rhomboïdale, la chambre funéraire, on a encore une charpente qui a donc 4600 ans.
Audrey Heller, la pyramide rouge, elle porte ce nom en raison de sa couleur.
Oui, parce que les blocs qui ont permis de construire le noyau de la pyramide, et non pas le parement lui venait d'une autre carrière plus lointaine, la carrière de Toura, ils se sont servis, bien sûr, en toute logique, des blocs qu'il y avait sur le plateau même, donc de ce calcaire local. D'ailleurs, ça va redessiner hein, cet environnement. Maintenant, on voit le plateau d'une telle manière, mais il ne ressemblait pas à ça au moment où Snefru arrive dans cette région-là et choisit de s'installer là. Et le calcaire local est très riche en fer et en manganèse, et ça a donné cette couleur rouge naturelle. Et donc, en égyptologie, on l'a surnommée la pyramide rouge, mais c'est un surnom moderne.
Elle était blanche, comme les autres ?
Elle était recouverte d'un parement blanc, comme les autres. Pour les Égyptiens, elle n'était pas du tout rouge, en fait. C'est nous qui la voyons maintenant comme ça, puisqu'on a retiré la couche supérieure.
Elle est souvent présentée, cette pyramide rouge, comme la première tentative réussie de pyramide à face lisse.
Oui, exactement. Alors c'est un peu la première qui est complètement lisse. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que, alors, en même temps, il y avait encore une troisième pyramide qui était construite par Snefru, qui est à Meidoum. Meidoum est plus au sud, c'est à une cinquantaine de kilomètres à peu près par rapport à Dachour. C'est une première pyramide qu'il avait d'ailleurs commencé à construire dans les premières phases de son règne, mais qui était une pyramide avec des gradins, hein, comme la pyramide un peu de Djoser à Saqqara. Et on sait qu'il y a eu trois phases de construction dans cette pyramide qui se sont étalées tout au long de son règne, qui est long d'ailleurs, c'est un règne d'environ, en tout cas 45 ans.
Ce qui est long pour l'époque.
Ce qui est plutôt long pour l'époque. Et on sait que dans la première phase du règne, il va construire cette pyramide à Meidoum. Et lorsqu'il est en train de construire les deux autres à Dachour, on continue les travaux et semble-t-il on a voulu aussi lisser ses parois a posteriori. Mais on ne sait jamais, on ne sait toujours pas d'ailleurs, s'ils sont parvenus à terminer les travaux avant la mort du roi. Et donc à savoir laquelle est la première pyramide lisse. A priori c'est plutôt en effet la pyramide du nord de Dachour, donc la pyramide rouge. Mais il peut encore subsister un doute. Ça, c'est quelque chose pour lequel les égyptologues ne sont pas toujours tous d'accord.
Mais cette pyramide rouge, est-ce que c'est la première vraie pyramide comme on peut l'avoir dans notre imaginaire ?
Oui, je pense que c'est la première vraie pyramide avec cette forme vraiment pyramidale, puisque bon, la vraie première pyramide pour tombeau de roi, en tout cas, c'était celle de Djoser à Saqqara, mais là, vous avez des escaliers qui montent vers le ciel, si on veut, avec cette pyramide à degrés, et là, c'est la vraie première pyramide à face lisse.
Comment est l'intérieur de cette pyramide rouge ?
D'abord, vous y accédez à cet intérieur par une descenderie. Donc, vous avez une ouverture dans la pyramide, à une certaine hauteur d'ailleurs, à une vingtaine de mètres de hauteur. Et vous avez une longue descenderie d'une soixantaine de mètres de longueur. Et vous arrivez ensuite dans deux antichambres qui mènent ensuite à une dernière chambre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intégralité de ces chambres et de ces corridors ont été, pas creusés, mais conçus dès le début à l'intérieur même de la masse de la pyramide. Et c'est la seule pyramide égyptienne, vous n'avez aucun des appartements, des chambres et autres qui soient en partie dans le sol, puisque les autres, même aussi à Giza, une partie est conçue à l'intérieur du sol, donc a été creusée, excavée, puis après on remonte dans la structure et une partie des chambres sont aussi, des appartements sont à l'intérieur du noyau, on va dire, dans la pyramide. Et là, à Dachour Nord, dans la pyramide rouge, c'est la seule qui présente cette particularité d'avoir toutes les structures à l'intérieur même de la pyramide, donc au-dessus du niveau du sol. Donc c'est aussi une prouesse technologique, puisqu'il faut construire quelque chose qui va soutenir ce poids qui est monstrueux, hein, au-dessus de la tête de ces chambres. Hein. Et on va justement essayer d'élaborer des choses qui avaient déjà été testées avant, qu'on voit à Meidoum, qu'on voit aussi dans la pyramide rhomboïdale, notamment des voûtes qu'on appelle à encorbellement, qui permettent de soutenir une partie de ce poids pour éviter que tout s'effondre et qu'ensuite il ne reste plus rien du trésor entre guillemets royal qui avait pu y être déposé.
Vous l'avez visité?
Oui, bien sûr. Je l'ai visité, comme la rhomboïdale aussi.
Alors, c'est impressionnant.
C'est impressionnant, c'est sportif. Petit conseil pour ceux qui y descendent, n'y descendez pas de face, mais descendez en arrière, parce que vous avez pour l'une, la rouge, justement 65 mètres à peu près de long de descenderie. Pour la rhomboïdale, c'est 78 mètres, c'est encore plus long. Vous êtes courbé en deux. Si vous descendez de face, le lendemain, vous ne pouvez plus gravir un seul escalier. Vos cuisses vont vous lâcher. Donc c'est vraiment... il faut descendre à l'envers, c'est un conseil. Et puis, c'est vrai que c'est pas pour les claustrophobes. Hein. Donc, il faut...
Toutes les pyramides.
Voilà, toutes les pyramides.
Que sait-on de la construction de cette pyramide rouge ?
On sait qu'elle a été vraisemblablement, comme je disais, construite dans un deuxième temps de ce règne de Snéfrou, puisqu'il a d'abord commencé celle de Meidoum, puis ensuite la rhomboïdale, et vraisemblablement autour de son an 29, par là autour, c'est les dates que l'on a actuellement à peu près par rapport aux sources à disposition, il commence cette troisième pyramide. Donc il faut aussi imaginer que vous aviez trois chantiers en même temps. Et même, on peut rajouter un quatrième, c'est que la pyramide rhomboïdale, elle est liée aussi à un énorme complexe. Il y a une petite chapelle, mais vous avez une voie qui menait à un temple bas. Et ce temple bas, c'est un immense monument en calcaire avec des blocs aussi gigantesques. D'ailleurs, certains des piliers font entre 40 et 50 tonnes. Et on sait qu'il commence à être construit, ce temple, en même temps qu'on construit aussi la pyramide rouge et qu'on continue à faire la rhomboïdale et qu'on continue à Meidoum. Donc il faut dire, c'est absolument monumental, là on peut vraiment le dire. On évalue pour la construction juste déjà des pyramides, sans même prendre en question le temple en tant que tel, il a fallu utiliser 3,5 millions de mètres cubes de calcaire, de blocs de calcaire, donc c'est gigantesque, sachant que la pyramide de Giza, qui est la plus grande pyramide égyptienne, on tourne autour de 2,5-2,6 millions de mètres cubes. Donc on voit que Snéfrou a dû mobiliser beaucoup plus encore de ressources que son successeur Khéops. Donc c'est un travail qui est assez long, assez fastidieux. On sait que pour construire cette pyramide, il a fallu à peu près 15 ans. Ça paraît pas si énorme en fonction de la taille du monument. C'est surtout qu'on a affaire désormais à des blocs d'un module vraiment important, beaucoup plus important que, par exemple, sous l'époque de Djoser à Saqqara, on a une moyenne de 3 tonnes par bloc. On a pu évaluer, c'est un de mes collègues qui est architecte qui avait évalué ça, qui dit qu'à peu près toutes les 2 minutes devait arriver un bloc de 3 tonnes sur le chantier. Ça devait fourmiller justement de monde, ça devait aller dans tous les sens, enfin c'était très organisé hein, justement pour y parvenir. Mais donc il fallait vraiment des équipes très bien coordonnées, et on connaît un peu des choses sur ces équipes puisqu'elles ont laissé des graffitis. On voit qu'elles sont différenciées, ces équipes, les unes les autres par rapport à l'utilisation de certains symboles que l'on retrouve sur les pierres. Et puis justement ces fameux ouvriers, eh bien c'est pas des esclaves, on le sait. Donc les personnes que Snéfrou avait été enlevées en Libye ou en Nubie ne travaillent pas sur la pyramide, ils travaillent dans ces domaines agricoles, mais sur le chantier des pyramides, c'est des ouvriers qualifiés. Et ça, on le sait notamment grâce aux travaux qui ont été menés depuis plusieurs dizaines d'années à Giza par l'Américain Mark Lehner, qui a prouvé qu'on traitait bien en fait ces ouvriers, qu'on les abritait sur le site dans des baraquements, qu'on les nourrissait correctement puisqu'on a retrouvé une partie des restes de leur alimentation. Et à Dachour même, on commence à retrouver certaines zones de baraquements qui ont été identifiées, qui ont permis d'abriter ces ouvriers, de les nourrir, de les soigner pendant toute la durée des travaux.
Pendant son règne, Snéfrou a réussi l'exploit de construire pas moins de 3 pyramides géantes. Son fils Khéops n'a pas prévu d'avoir moins d'ambition. Bien au contraire.
Extrait du documentaire Les secrets des bâtisseurs de pyramides.
Cette pyramide, souhaitée par Snéfrou, elle va servir de modèle pour celle de son fils, Khéops. Alors c'est cette fameuse pyramide que l'on surnomme la Grande Pyramide, et on en parle depuis le début de cette émission.
Oui, alors elle va servir en effet de modèle à Khéops, qui désormais a un peu a toutes les clés en main. On sait comment faire maintenant une pyramide à face lisse. On connaît en plus son architecte à Khéops, c'est Emihounou, qui est un petit-fils de Snéfrou. Et on soupçonne d'ailleurs, puisqu'on n'a pas le nom de l'architecte de Snéfrou, mais on soupçonne que c'est son fils aîné, Nefermat, un frère de Khéops qui est décédé avant de pouvoir lui-même devenir roi, donc pendant que son père était, semble-t-il, encore sur le trône. Et ce fils de Nefermat, c'est Emihounou, et donc cet architecte, il bénéficie directement du savoir peut-être familial. Dans ce cas-là, on peut se poser vraiment la question. Et il va se servir pour construire un complexe pyramidal, mais aussi reprendre tous les éléments qui avaient été élaborés par et pour Snéfrou. C'est-à-dire, vous avez la pyramide, vous avez un temple haut, vous avez une chaussée descendante qui va jusqu'à un temple bas. Et ça, on reprend exactement la même chose à Gizeh. Et ça, c'était une nouveauté sous Snéfrou. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Si vous reprenez en comparaison le complexe de Djoser à Saqqara, vous avez un ensemble de bâtiments factices d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, qui sont là pour la symbolique mais qui ne servaient pas et qui sont là pour raconter quelque chose de bien particulier, notamment probablement en relation avec cette fameuse fête qu'on appelle la fête Sède en égyptologie, mais qui permet de renforcer le pouvoir du roi et qu'il célèbre après un certain nombre d'années de règne. Là, à Dachour, on a fait quelque chose de complètement différent. Donc on peut dire qu'il y a une volonté d'architecture réelle dans ce cas-là, avec des temples en activité aussi, du vivant déjà du roi, et après pour sa mort, pour entretenir son culte funéraire. Mais on a une vraie architecture mise au point, élaborée, novatrice à cette époque-là, qui va ensuite être reprise pendant plusieurs siècles.
Pas seulement pour la pyramide de Khéops.
Non, on va continuer aussi pour les suivants.